Vous écoutez RTL.
18h. RTL Soir, bonsoir Stéphane Carpentier.
Bonsoir à tous, ravi de vous ouvrir les portes de RTL Soir. Ce sont deux heures d'infos en direct pour comprendre et décrypter l'actualité à la veille d'un week-end que on vous souhaite évidemment excellent. À la une, le coup de gueule du sport français alors que Matignon ambitionne de supprimer 1600 postes au ministère des Sports dans les 4 ans, avec en prime un budget en baisse de 30 millions d'euros, le tout dans un pays qui doit accueillir les JO à Paris en 2024. Dans RTL Soir, les explications et la colère du vice-président du Comité olympique français. Bernard M. Salem sera notre invité. Pour lui, on se tire tout simplement une balle dans le pied. RTL Soir, première édition avec vous, Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Et les autres titres.
D'abord, cette dernière minute, les juges relancent la piste Fourniret dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Des fouilles sont en cours dans les Yvelines chez un proche du tueur en série. Une sale rentrée pour Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National est de retour à la foire de Châlons en Champagne. Elle annonce qu'elle est de nouveau convoquée par les juges dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Des juges qui n'ont pas oublié non plus François Fillon, l'ex-candidat de la droite à la présidentielle, a été entendu toute la matinée sur les emplois supposés fictifs de sa femme et de ses enfants. Là-dessus, mais pas seulement. À suivre également les obsèques du cachet, une offensive des forces syriennes sur Idlib, dernier bastion rebelle en Syrie. La bourse de Paris, elle termine en légère hausse ce soir de 0,16% à 5252 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, Emmanuel Macron assure que les 80 km/h, c'est bon pour l'environnement. Sans doute l'une des principales mesures écologiques, selon le président. Virginie Garin nous dira si le chef de l'État dit vrai. Puis direction les coulisses de l'actu et les vignes du Bordelais. Un riche Colombien vient de débourser 200 millions d'euros pour deux petits hectares qui donnent le célèbre Pétrus. Nous serons dans les coulisses d'un mythe qui s'arrache. À 18h30, Olivier Mazerolle. Ce soir, Macron et l'Europe. À 18h35, notre invité est comédien Stéphane Freys, sur les planches dès la semaine prochaine pour la reprise de la pièce de Florian Zeller, Le Fils. Et puis bien sûr, à 19h15, on refera le monde. La météo, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Alors mieux, c'est difficile.
Oui, c'est vrai, il va nous rester 2-3 petites broutilles quand même demain, surtout au cours de la matinée au nord de la Seine. Ça pourrait aller jusqu'à Londé dans les Hauts-de-France, mais enfin c'est vraiment très très peu de choses. Place au soleil partout ailleurs dès le lever du jour, un soleil qui va évidemment gagner les régions du nord aussi dans l'après-midi. On aura simplement à redouter un petit peu d'averses orageuses en fin de journée sur les Pyrénées, les Alpes ou encore la montagne Corse. Les températures, bon, ça picote encore un peu le matin. 7 degrés attendus à Reims au réveil, 10 à Nantes, 13 à Mâcon, 17 à Toulon. Dans l'après-midi, comptez 20 degrés au Havre, 23 à Paris, 25 degrés sur Belfort, 27 à Perpignan, 29 à Lyon et 31. On repasse au-dessus des 30 à Carcassonne.
C'est bien tout ça. Merci Valérie.
RTL Soir.
Le monde du sport est donc, Isabelle, sans dessus dessous. Les moyens du ministère devraient être sévèrement réduits dans les années qui viennent.
Dans une lettre de cadrage, Matignon fixe le budget à 450 millions d'euros. Autrement dit, à nouveau, une baisse de 30 millions. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aussi tailler dans les effectifs. L'exécutif réclame la suppression de 1600 emplois d'ici à 2022. La moitié des troupes mises à la porte. Drôle de pot d'accueil pour la toute nouvelle ministre Roxana Maracineanu. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
Très concrètement, qui est visé et qu'est-ce que ça va changer?
À viser les CTS, les conseillers techniques sportifs. Vous en connaissez certains, Didier Dinard et Guillaume Gilles, les anciens champions olympiques de hand qui dirigent les Bleus. Eh bien, ils en font partie en tant qu'entraîneurs nationaux. Les DTN, les directeurs techniques nationaux, sont également concernés, mais ce sont surtout les hommes ou femmes de l'ombre, ceux qui ont les mains dans le cambouis à développer le sport en région, notamment qui font le lien entre les ligues, les clubs, qui découvrent les talents de demain, forment les entraîneurs, bref, qui font un énorme travail qui risque le plus. Le but de l'État, c'est de se désengager totalement, que les fédérations absorbent ces dépenses. Pour celles qui se portent bien financièrement, qui n'ont pas besoin des deniers publics pour vivre et qui ont des partenaires financiers solides, comme le tennis, eh bien cela ne va pas poser trop de problèmes. En revanche, pour les petites fédés, comme l'escrime ou la boxe, qui ont rapporté de belles médailles aux derniers Jeux de Rio, eh bien ce serait catastrophique. Certaines pourraient mettre la clé sous la porte. Pour info, vous savez quel est le budget de la culture ? 10 milliards. Celui des sports, rappelons-le, 450 millions d'euros. C'est même pas 1% du budget de l'État.
Isabelle Langer, on va en parler donc à 18h20. Bernard M. Salem, pas content du tout, le vice-président du Comité olympique français. Il est notre invité tout à l'heure. C'était jour de rentrée aujourd'hui pour Marine Le Pen, rentrée politique mais aussi judiciaire.
La présidente du Rassemblement national est restée très discrète pendant l'été. Elle réapparaît aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne avec dans le viseur les élections européennes de l'an prochain. Mais l'ambiance est morose. D'abord, le parti est empêtré dans les problèmes d'argent. Et puis Marine Le Pen a annoncé qu'elle était de nouveau convoquée par les juges sur l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. européen. Annonce sur l'air bien connu du complot, Marie-Bénédicte Allaire.
Avec Madame Thépeau et Monsieur Van Ruymbeck, le pire est toujours sûr. Quand elle parle des juges qui instruisent l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National, Marine Le Pen ironise. En fait, elle a décidé de faire un argument politique des ennuis judiciaires de son parti.
Nous savons pertinemment que nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Ça fait des mois que ça dure. C'est un épisode supplémentaire, ça ne me perturbe pas plus que ça.
Allusion à une nouvelle mise en examen intervenue cette semaine dans l'affaire. Elle-même a reçu une nouvelle convocation des juges et dit qu'elle leur répondra sans plus de précision. Et elle en rajoute, peut-être vont-ils me condamner à mort à titre conservatoire.
Alors qu'ils continuent, qu'ils multiplient les persécutions, nous on sera toujours là où nous devons être, c'est-à-dire aux côtés des Français.
Marine Le Pen essaie de faire la démonstration qu'on veut empêcher le Rassemblement National de fonctionner en la privant de subsides. Elle espère tout de même une décision de justice favorable le 26 septembre, faute de quoi elle en appellera de nouveau à la générosité des sympathisants en attendant le deuxième versement de financement public en novembre.
Marie-Bénédicte Allaire, les juges ne lâchent pas l'affaire non plus concernant François Fillon. L'ancien Premier ministre a de nouveau été entendu ce matin.
Tout comme son épouse Pénélope hier, il s'agit bien sûr de l'enquête sur les emplois supposés fictifs de Madame Fillon et des deux enfants du couple. Une enquête que l'on croyait en sommeil et plutôt sur la fin. En fait, Cindy Hubert, apparemment les juges se posent encore beaucoup de questions. L'audition a duré toute la matinée.
Oui, on pensait les magistrats sur le point de clôturer l'instruction, mais le juge Tournaire a, semble-t-il, encore des choses à demander à François Fillon. L'ancien Premier ministre a dû répondre à des dizaines de questions ce matin, et notamment sur un volet. La société de conseil 2F, fondée par Fillon à son départ de Matignon en 2012. La justice s'intéresse à ses activités pour savoir s'il n'y a pas eu de possible conflit d'intérêts à l'époque. Plus d'une dizaine d'auditions ont été menées sur ce sujet ces derniers mois par les policiers spécialisés de l'Auclif. Des perquisitions ont eu lieu également chez les anciens clients de cette société. Tout cela compilé dans un rapport de synthèse déposé sur le bureau des juges avant l'été. D'où ce nouvel interrogatoire et la menace d'une possible nouvelle mise en examen sur ce volet un an et demi après le début de l'affaire.
Merci Cindy Hubert. Emmanuel Macron à Marseille aujourd'hui, où il a retrouvé Angela Merkel pour un front commun européen face aux nationalistes et aux populistes. Le chef de l'État doit aussi rencontrer des élus marseillais, dont Jean-Luc Mélenchon.
L'émotion, Isabelle, cet après-midi à la cathédrale de Bourges. C'est là qu'ont eu lieu les obsèques du caporal Arthur Noyer.
Le jeune militaire avait disparu en avril 2017 après une soirée dans le centre-ville de Chambéry. Nordal Lelandais, mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys, a finalement avoué en mars qu'il avait pris Arthur Noyer en stop le soir de sa disparition. Il a évoqué une bagarre qui aurait mal tourné. Les parents de Maëlys étaient présents aujourd'hui à Bourges. Reportage RTL de Christian Panvert.
Le curé de la cathédrale a embrassé les parents d'Arthur Noyer avant de se tourner vers le cercueil.
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière. Tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Arthur.
Six frères d'armes du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry l'ont porté dans l'église sur une chanson de Neil Young, Old Man.
Old Man.
Le père d'Arthur a ensuite pris la parole. Je suis fier de toi et j'espère que tu seras fier de moi. Madeleine et Monique, les grands-mères, se soutenaient effondrées.
Arthur, c'était un gentil garçon.
Il était agréable. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais. Il m'aimait par-ci, il m'aimait par-là. Il méritait pas ça, franchement, il méritait pas ça.
Dans l'assistance, beaucoup portaient un vêtement de couleur verte, un clin d'œil souhaité par la famille. Sacha, un ami d'enfance.
Ça n'a pas été évident parce qu'on n'a pas tous du vert dans notre dressing, mais on a tous fait l'effort de trouver quelque chose dans ce ton-là, et puis surtout que c'était une des couleurs préférées d'Arthur.
Quentin, le frère d'Arthur, a conclu la cérémonie par la lecture d'un texte de saint Augustin qui se termine par cette phrase « Je vous attends juste de l'autre côté du chemin ».
Le reportage RTL à Bourges, signé Christian Panvert.
Il est 18h11, RTL Soir avec Stéphane Carpentier et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et la suite de RTL Soir sont donc les juges chargés de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin qui suivent la piste de Michel Fourniret.
Cela fait 15 ans que la fillette a disparu à Guermantes en Seine-et-Marne. Des fouilles ont effectivement commencé cette semaine dans les Yvelines, chez un proche du tueur en série, Michel Fourniret, qui a déjà été condamné pour 7 meurtres, Olivier Bois.
Oui, des fouilles chez l'une des premières femmes de Michel Fourniret, qui a été mariée dans les années 60-70. Le jardin a été creusé pour s'assurer que le le corps d'Estelle Mouzin n'y était pas. La petite fille, vous l'avez dit, a disparu en 2003. À l'époque, elle avait 9 ans. Michel Fournier était en liberté à ce moment-là et son ombre a toujours plané au-dessus de cette affaire, même si l'ogre des Ardennes n'a jamais avoué son implication. Alors pourquoi faire ces fouilles maintenant? A priori, ça n'est pas un nouvel élément ou un nouveau témoignage. C'était déjà dans le dossier, mais de nouveaux juges ont repris l'enquête. Ils veulent tout vérifier d'un œil neuf. En l'occurrence, le jardin n'avait jamais été creusé. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Des fouilles ont eu lieu cette semaine donc. Elles n'ont rien donné pour l'instant. Elles doivent se terminer ce soir. Pas d'avancée donc déterminante à ce stade, mais la preuve que même 15 ans après la disparition de la petite fille, les juges, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont toujours l'espoir de résoudre un jour l'énigme de la disparition d'Estelle Mouzin.
Voilà les toutes premières informations d'Olivier Bois du service police-justice de la première radio de France. Direction à présent Isabelle Toulouse, car c'est un bizutage XXL qui a eu lieu mercredi à l'école d'infirmiers de la Ville Rose. Et les bizutages, rappelons-le, c'est interdit depuis 10 ans.
Oui, c'est la CGT de l'hôpital de Toulouse qui a donné l'alerte. La direction a ouvert une enquête interne. Elle a reçu le plein soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui dénonce des pratiques dégradantes. 250 étudiants sont concernés. Décision de Pauline Salingue, elle est la secrétaire CGT de l'hôpital.
Des étudiants très choqués, oui, forcément, parce que quand vous êtes en cours, en amphithéâtre avec vos camarades, qu'une centaine d'étudiants arrivent, vous faut sortir, attachés deux par deux, réunis, prennent de la farine, des liquides divers et variés, j'en passe et des meilleurs, et organisent ce qu'on appelle des jeux, mais qui en vérité sont des humiliations, oui, c'est choquant. Les gens ne se rendent pas compte de la pression sociale, de la pression du groupe qui s'exerce sur les étudiants, qui fait qu'en vérité, ils ont soi-disant le choix de partir, mais ils ne partent pas, parce qu'ils préfèrent subir ça pendant une heure et ne pas avoir de problème pendant leurs 3 années d'études, être intégrés au groupe, que d'apparaître pour des lâches, que d'apparaître pour des gens qui fuient. C'est bien ça le problème du bizutage.
Pauline Salingue, secrétaire CGT de l'hôpital de Toulouse, jointe pour RTL par Patrick Hisson. Une petite victoire pour les salariés McDo de Marseille. La justice vient d'interdire la vente d'un restaurant des quartiers nord. Le fast-food était censé devenir un restaurant halal asiatique, mais en revanche, 5 autres restos ont été cédés.
L'actualité à l'étranger, c'est la communauté internationale au chevet de la ville syrienne d'Idlib. 2 réunions cruciales ont lieu aujourd'hui.
Une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée à l'initiative des États-Unis et un sommet tripartite à Téhéran qui réunit l'Iran, la Turquie et la Russie. En jeu, les quelques 3 millions d'habitants d'Idlib menacés par une offensive des forces syriennes. C'est le dernier bastion rebelle de Syrie, Christophe Decroix.
Oui, alors à Téhéran, le russe Poutine et l'iranien Rouhani qui soutiennent Assad d'un côté et le turc Erdogan qui aide certains rebelles de l'autre ont trouvé un accord à minima. Ils évoquent une stabilisation par étapes de la zone d'Idlib. L'idée, c'est d'offrir la possibilité de passer un accord avec les groupes qui sont prêts au dialogue. Ça concerne les rebelles proches de la Turquie. S'ils acceptent, ils seront évacués vers une zone tampon. En revanche, pas question d'y accepter les terroristes proches d'Al-Qaïda ou de Daesh. Cela dépose les armes ou doivent mourir. Du côté de l'ONU, où il y avait également une réunion, on craint la plus grande catastrophe humanitaire depuis le début de la guerre en Syrie. L'émissaire de l'ONU réclame l'ouverture de routes d'évacuation pour permettre aux civils de quitter Idlib. Le problème, c'est que d'un côté, la Turquie n'a pas envie de voir arriver un nouveau flux de réfugiés et de l'autre, les habitants ne veulent pas retomber entre les mains de Bachar el-Assad. Les habitants, tellement confiants dans les négociations en cours qu'ils se confectionnent actuellement des masques à gaz avec des sacs plastiques et des gobelets en carton à se mettre sur le nez dans l'espoir que cela les protégera d'une attaque chimique.
Merci Christophe Decroix du service étranger d'RTL. Pour terminer, que fait donc Gérard Depardieu à Pyongyang? L'acteur a été aperçu dans un hôtel de la capitale nord-coréenne ces jours-ci, alors que le régime s'apprête à fêter son 70e anniversaire. Apparemment, Gégé n'a pas été spécialement ravi d'être reconnu par les journalistes présents sur place.
Toute l'actualité, c'est rtl.fr quand vous le souhaitez. Isabelle, à tout à l'heure, 18h30. Soyez à l'heure, s'il vous plaît.
Je vais essayer.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. Pour justifier le passage de la vitesse à 80 km/h sur les nationales, Emmanuel Macron a brandi hier en visite au Luxembourg un nouvel argument. Réduire la vitesse, c'est bon pour l'environnement. C'est sans doute l'une des principales mesures écologiques, a expliqué le président. C'est vrai, Virginie Garin?
Alors oui, il y a un impact sur le climat. Quand on roule moins vite, on émet moins de gaz à effet de serre. Le cabinet de conseil Carbone 4 a fait le calcul. Quand on passe de 90 à 80 km/h, on a besoin de 5% de carburant en moins. Donc si on se base sur la consommation totale des voitures et des camions camions en France, sachant que le trafic sur ces routes concernait c'est un tiers du trafic national, eh bien Carbone 4 en conclut que la mesure va permettre d'économiser par an 1 million de tonnes de CO2, un impact deux fois plus important que de restreindre la circulation dans les centres-villes, ou aussi efficace que de rapprocher la fiscalité du diesel et de l'essence. Donc oui, c'est une mesure écologique.
Donc, et quand Emmanuel Macron dit que les 80 km/h, c'est sans doute l'une des principales mesures écologiques ?
Alors là, en revanche, c'est inquiétant, car 1 million de tonnes de CO2 économisées, c'est bien, mais ça ne représente que 0,3% de nos émissions. Or, la France est engagée à les réduire de 40% d'ici à 2030. Alors, si Emmanuel Macron considère que les 80 km/h, s'il considère que c'est l'une de ses principales mesures écologiques, eh bien cet objectif ne sera jamais atteint.
La question de l'actualité, les réponses sur RTL de Virginie Garin.
RTL Soir, il est 18h17.
Et dans un instant, le premier invité de RTL Soir, un homme en colère contre le gouvernement qui veut supprimer la moitié des postes du ministère des Sports. Bernard M. Salem, vice-président du comité olympique français, est avec nous juste après ça.
RTL Soir.